Bonjour. Vous allez entendre l'enregistrement du colloque du 21 janvier 2026 organisé à la Maison des Réfugiés à Paris, intitulé « Quelle psychanalyse pour penser les dominations et soigner leurs effets ?» Intervention de Tammy Ayouch, le racial infantile, l'inconscient en régime de rapports sociaux de domination de race.
Donc voilà, on a le grand plaisir de commencer avec Tammy Ayouch. C'est vraiment une grande joie. Tammy, c'est quelqu'un de très agréable, je trouve. Il embrasse comme ça, très très agréable. Et voilà, donc Tammy Ayouch est psychanalyste. Il est professeur à l'université Paris Cité. Il a été professeur invité à l'université de Sao Paulo. Donc ça, c'est important, le passage des frontières. Et surtout, je dirais, toute sa bibliographie très riche d'auteurs qu'on consulte pas beaucoup, qui sont les auteurs sud-américains. Et ses recherches portent sur les effets psychiques des discriminations et des rapports sociaux de domination. Ses recherches analysent également les interactions de la psychanalyse avec la philosophie, la théorie politique, les études critiques sur la race, de genre, post- et décolonial. Et son dernier ouvrage que je vous recommande, bien sûr, La race sur le divan, aux éditions Anna Kaona, qui est en vente d'ailleurs à l'entrée. Voilà, allez-y.
Bonjour à toutes, à tous. Je suis ravi d'être ici. Je voudrais commencer par remercier vivement Claire et Daniel de m'avoir invité. Je suis vraiment très content d'être ici. Je vais pour ma part, vous parler de domination particulière, de domination de race. Et en fait, à partir à la fois d'une expérience, d'une pratique clinique et de tentatives de théorisation, de mise en place de recherches précisément fondées sur cette pratique clinique. Et je crois que ce qui a souvent traversé ma pratique clinique, c'est un questionnement depuis très longtemps dans ma pratique clinique, dans mon rapport aux théories, aux tentatives de théorisation, la question de savoir qui peut parler. En réalité, qui peut parler, qui a la parole, qui a le droit de parler, à quelles conditions, en quels termes, selon quels critères d'intelligibilité de son discours. Alors, qui peut parler d'abord sur un divan, chez un ou une psychanalyste. Et là, alors, je passe rapidement sur les conditions économiques et temporelles qui feraient de la psychanalyse un sport de bourgeoise désœuvrée, ou sur la valeur des séances, dont on dit qu'elles doivent coûter, un monnaie sonnante et trébuchante, pour que l'analysant ou l'analysante sente que ça lui coûte, ce qui d'ailleurs arrange très bien la déclaration d'impôt de l'analyste. Donc, passons sur ces conditions économiques. Imaginons une psychanalyse en extension, donc qui serait inscrite dans des dispositifs voulus accessibles à toutes et à tous, voire gratuits. Qui peut s'y exprimer? En quels termes? Et comment le fait qu'un sujet s'inscrive dans des rapports sociaux de pouvoir, de race, de genre, de sexualité, de classe, de validité, comment ce fait-là vient limiter l'accès à une élaboration analytique? Et la limite ici, elle n'est pas du côté de l'analysant ou de l'analysante, elle est du côté de l'analyste, de l'écoute de l'analyste et de tout le dispositif analytique. Donc, qu'est-ce que la psychanalyse peut écouter des rapports sociaux de pouvoir? Ça, c'est vraiment une question principale qui a toujours animé mon écoute clinique, mes tentatives de théorisation. Et donc là, je me concentre beaucoup plus précisément sur les rapports sociaux de pouvoir de race. Et donc, c'est demandé ici s'il n'y a pas une forme spécifique de réduction au silence qui est distincte du refoulement chez Freud ou de l'aliénation linguistique chez Lacan. Et dans quelle mesure cette réduction au silence n'est pas répétée, n'est pas perpétuée dans le cabinet de l'analyste? Alors cette question, c'est ce qu'on appelle la question de la subalternisation. Pour Gramsci, le ou la subalterne, ce n'était pas uniquement celui ou celle qui est soumise aux oppressions, aux dominations, mais c'est celui ou celle qui, du fait d'être soumise aux dominations, est radicalement exclu de la sphère de la représentation, du dire, du se dire. Voyez, donc comment éviter que les modalités de parole de l'analysant, de l'analysante, les modalités d'écoute de l'analyste ne soient pas réduites par une grammaire hégémonique qui finisse par trahir la singularité de l'analysant, de l'analysante. Alors ici, bon, donc qui peut parler sur un divan? qui peut parler dans une théorisation psychanalytique, qui parle. Et je pense que ici, quand on, enfin, en tout cas, si je me concentre sur les rapports sociaux de race, c'est la question de la colonialité qui est en jeu. La colonialité, vous savez, c'est par-delà les moments de colonisation, par-delà les indépendances, ça renvoie à un certain type de rapports sociaux qui ont survécu, justement, aux indépendances, c'est-à-dire la division du monde et du travail fondée sur une hiérarchie raciale, qui est toujours de mise, et un rapport au savoir qui est fondé sur les principes d'une rationalité européenne. Seul l'Occident peut produire le savoir. La colonialité, donc, c'est un lieu d'énonciation particulier, voyez, et la race y est centrale. Et donc, du coup, moi, je pose la question de savoir, se demander qui peut parler, c'est poser la question de savoir, en psychanalyse, quels effets psychiques les rapports sociaux de race ont sur le sujet de l'inconscient. Qu'est-ce que peut en dire la psychanalyse? Qu'est-ce qu'elle peut entendre du racisme? Et ça soulève, bien sûr, toute une série de questions. Comment on se subjective quand on est racisé dans une société qui se déclare, s'autopréclame blanche? Alors, je dis racisé, hein, je reprends cette distinction que fait Colette Guillaumin entre racialisé et racisé. Racialisation, racisation. La racialisation, elle nous concerne tous et toutes. La racialisation, c'est le fait d'être inscrite dans un rapport social de pouvoir, de race, dans une position dominante ou dans une position dominée. La racisation, c'est une racialisation négative, infériorisante, dominée. Un corps perçu comme blanc est racialisé. Un corps perçu comme noir est racialisé et en plus racisé. Donc, il s'agit de voir ici comment la violence sociale que les analysantes racisées subissent dans leur vie quotidienne peut se perpétuer dans le cabinet de l'analyste. Et comment ceci a des effets sur l'écoute clinique, mais aussi sur la métapsychologie. La métapsychologie, vous savez, c'est cette espèce d'appareillage théorique que la psychanalyse se construit pour entendre sa clinique, mais aussi pour faire tout un ensemble d'hypothèses sur les processus inconscients. Appareillage très approximatif, qui est toujours à remettre sur la table de travail, qui est toujours, si vous voulez, incoatif, hein, pour le dire en termes un peu barbares, c'est-à-dire toujours, qui doit toujours recommencer à se penser. Qui ne doit pas être définitif, qui ne doit pas se dogmatiser. Donc qu'est-ce que serait qu'une méthode psychologique qui prenne en considération la race? Alors pour essayer de répondre à cette question, je vais développer un propos en deux temps. D'abord, essayer d'indiquer assez brièvement ce qu'est et ce que n'est pas la race. Donc en insistant sur un certain nombre de points. D'abord, le fait que la race, c'est un système relationnel, que c'est une construction historique, mais déshistoricisée, qu'elle a des effets actuels, et notamment dans ce qu'on appelle le racisme systémique, et son pendant, la blanchité. Donc je vais développer ces points-là dans une première partie. Et ma deuxième partie, c'est qu'est-ce que serait que cette psychanalyse qui réforme sa métapsychologie? Comment penser une métapsychologie ici, non pas du sujet raciste, non pas du racisme, mais de la race comme système, justement. Donc, la race... Ce qu'est, ce qui n'est pas la race, la race est un système relationnel. Je vais commencer par être très clair, la race, ça n'existe pas. La race n'existe pas, et pourtant, elle a des effets sociaux et psychiques indéniables, ignorés par une psychanalyse majoritaire. Hein, je reprends ici à nouveau Colette Guillaumin qui écrivait « Non, la race n'existe pas. Oui, la race existe. Elle n'existe pas, cependant, elle produit des morts. » Et donc, c'est pour ça que je réutilise ce terme de race, par-delà le tabou et toutes ces espèces de coquetteries assez hypocrites d'ailleurs, qui consistent à penser que utiliser le terme race, c'est raciste, c'est perpétuer la race dans son sens biologisant, c'est imposture scientifique, et arrêter de parler de race va magiquement faire disparaître le racisme, hein, comme le fait, hein, quand on a le projet de retirer de la Constitution en 2018 le terme race. Ça suffirait à faire disparaître le racisme. Il y a une espèce de démenti total, et surtout en France, hein, des rapports sociaux de race, de la race et du racisme systémique. Donc, la race, comme l'utilisent les sciences sociales, contrairement à la catégorisation biologique plurielle des races, au pluriel, théorisée au XIXe siècle, la race ne renvoie pas à une quelconque appartenance phénotypique naturalisée. Elle renvoie à des rapports sociaux de pouvoir. La race n'est ni biologique, ni ontologique, ni culturelle, elle est relationnelle. C'est un rapport. Elle n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus. Elle définit le rapport entre deux individus ou deux groupes d'individus. Un rapport toujours binaire, de minorisation, hein, de le majoritaire, le minoritaire, l'inclus, l'incluse, l'exclu. Les corps glorieux, les corps abjects. Donc, c'est une construction sociale qui résulte d'une histoire et de la catégorisation des populations en fonction de leur langue, de leur culture, de leurs pratiques, de leur religion et de leurs intérêts économiques dans la distribution internationale du travail. Je suis très matérialiste ici. La race, c'est lié à une distribution internationale du travail. L'attribution, et donc du coup, le fait d'attribuer une identité racialisée à quelqu'un ne se fonde pas du tout sur des critères objectifs, hein, directement tirés de la perception. Ça procède toujours d'une inscription dans un contexte historique particulier. Par exemple, au XVIIIe siècle, aux États-Unis, Benjamin Franklin considérait que les Espagnols, les Italiens, les Françaises, les Russes, les Suédoises n'étaient pas des Blanches. N'étaient blancs et blanches que les Anglais et les Saxons. C'est-à-dire que la racialisation diffère en fonction des époques et des lieux. En fonction des lieux, par exemple, bon, moi, malgré cette tête incontestablement polonaise que je peux avoir, je suis marocain. Donc, j'ai découvert que j'étais racisé en arrivant en France. J'ai vécu au Brésil. Au Brésil, je suis devenu blanc à nouveau. Quand j'ai été vivre en Argentine, je suis redevenu racisé. Bien el turco, el morocho. Donc voilà, vous voyez, donc c'est toujours variable, la racialisation. Ce qui est moins variable, ce qui est moins relatif, c'est l'exposition à la vulnérabilité des corps noirs, qui, elle, depuis au moins 5 siècles, est toujours beaucoup plus grande, l'exposition à la vulnérabilité des corps noirs. Donc, construction relativisante, ou en tout cas relationnelle surtout, construction historique. Je fais une double généalogie de la race, je ne veux pas être trop long ici, mais une double généalogie, d'abord dans la péninsule ibérique au XVe siècle, et ensuite dans l'invasion, l'expansion vers les Amériques, l'invasion des Amériques. Dans la péninsule ibérique, la race, hein, elle est contemporaine des royaumes arabes, c'est-à-dire juifs et musulmans. Au milieu du XVe siècle, à la suite d'une politique de christianisation des juifs et des juives, les convertis, on a mis en place au XVe siècle ce qu'on a appelé los estatutos de limpieza de la sangre, les statuts de propreté du sang, de pureté du sang, qui interdisaient des promotions sociales, des mariages interraciaux à des convertis et à des descendants de convertis, convertis du judaïsme ou de l'islam, enfin les nouveaux chrétiens en réalité, qui interdisait donc ces alliances intermatrimoniales et ces circulations sociales. Et le rejet était basé sur la présence de sang juif ou musulman dans l'ascendance. Et on pouvait remonter jusqu'à, que sais-je, la 7e génération auparavant, pour montrer que si vous aviez un ancêtre sur 64 qui était converti, eh bien vous continuiez à être considéré comme un converti ou une convertie. Ce qui signifie une des premières ontologisations de la race. Cette chose qui se transmet transgénérationnellement, voyez. Et ensuite, fort de cette création, les Espagnols, les Portugais, puis ensuite les Hollandais, les Français, les Anglais, etc., sont allés envahir les Amériques, et la race a permis de justifier une répartition du travail. C'est-à-dire que le but de la race, ça a été de mettre en place une distribution de la main-d'œuvre qui soit compatible, donc ce que j'appelle une distribution de la main-d'œuvre, derrière cet euphémisme-là, j'entends évidemment l'appropriation des terres des autochtones, la colonisation, le massacre des populations locales, la déportation de près de 15 millions d'Africains et d'Africaines réduites à l'esclavage. Et donc, justifier cette distribution de la main-d'œuvre, c'est-à-dire la rendre compatible avec des discursivités européennes, d'abord religieuses, hein, les valeurs chrétiennes, ensuite philosophiques, hein, par exemple les valeurs de la philosophie des Lumières, de la biologie, les valeurs politiques de la démocratie. La race, c'est ce qui permet précisément de rendre compatibles toutes ces discursivités développées en Europe, qui valent uniquement pour des corps perçus comme blancs, européens, rendre ces discursivités-là d'égalité, de fraternité, de liberté, les rendre compatibles avec une distribution particulière de la main-d'œuvre, hein, qui repose évidemment sur le massacre, la réduction à l'esclavage, la colonisation, etc. Donc la race ensuite a été biologisée au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, elle a été popularisée dans les eaux humains, dans la littérature, dans la presse, elle a été littéralement appliquée dans une ingénierie sociale de blanchiment des populations d'Amérique latine, hein, en Uruguay, en Argentine, au Brésil. Et puis ce darwinisme social a donné lieu à différentes législations raciales, hein, l'appareil juridique de l'Allemagne nazie, de la France de Juicy par exemple, et a culminé sur le sol européen dans l'atrocité du génocide juif et tzigane. Comme si l'Europe se rendait compte de la continuité de ce qui avait été mis en place d'abord dans les colonies et qui pour la première fois apparaît sur le sol européen dans son atrocité. Ça, c'est pas très original ce que je suis en train de vous dire, c'est la thèse d'Anna Arendt, c'est la thèse d'Aimé Césaire, exactement. Donc, construction historique, invention historique, mais qui vaut uniquement quand elle est déshistoricisée. L'efficace sociale de cette construction historique repose sur l'effacement de cette historicité, c'est-à-dire que cette notion consiste à attribuer aux groupes humains une nature immuable, intemporelle, innée, et généalogiquement transmissible. La race, c'est une naturalisation des rapports sociaux et historiques. Et on pense là, dans cette naturalisation, par exemple, à l'homme africain qui n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire, hein, donc, selon un certain président français, qui d'ailleurs n'a fait que répéter des choses bien anciennes, hein, les discours à l'Assemblée du 19e siècle, hein, les discours de Victor Hugo, par exemple, qui disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Donc, construction historique, déshistoricisée, avec de véritables effets psychiques. Hein, les effets psychiques de la race sont rarement pensés par la psychanalyse. Alors je voudrais faire quand même ici une exception. Aujourd'hui, me semble-t-il, l'avant-garde de la pensée psychanalytique sur la race, sur la colonialité, se fait au Brésil, hein, avec une productivité absolument exceptionnelle. Hein, je cite quelques noms, j'ai besoin de les citer, je pense que c'est important de les connaître, de les avoir entendus au moins pour une fois. Virginia Bicudo, Lélia González, Neuza Santos Souza, Isildinha Batista Nogueira, Cida Bento, Faustino Davison, Andrea Guerra, Augusto Paim, Ignacio Paim, Alba Desan, Priscila Santos, Kwame Yonatan et bien d'autres qui pensent aujourd'hui. Ce sont toutes des psychanalystes qui pensent ces questions de la race. Alors, une autre psychanalyste qui pense ces questions de la race, et les effets psychiques de la race, c'est Grada Quilomba, qui est une psychanalyste afro-portugaise, qui est une artiste aussi, et qui fait, dans un très beau livre qui s'appelle Mémoire de la plantation, qui pense un traumatisme propre au sujet noir, traumatisme non pas familial, mais successif au contact traumatique avec la barbarie violente du monde blanc. Un traumatisme pour lequel la culture n'offre pas d'élaboration symbolique, que la psychanalyse ne pense pas ou pense peu. Traumatisme historique, hein, collectif de l'esclavage, du colonialisme, qui se rejoue dans le racisme au quotidien. Et cette idée est très intéressante. Chez Grada Quilomba, son idée, c'est que le racisme au quotidien n'est qu'une réactualisation de l'espace de la plantation, de l'espace de la colonie, de l'esclavage. Hein. La fonction du racisme au quotidien est de rétablir cet ordre colonial perdu, ravivé, qui revient presque de manière hallucinatoire ici. Et donc, ceci s'inscrit dans ce qu'on on reconnaît très difficilement en France et qui s'appelle le racisme systémique. Vous voyez ? Le racisme systémique, ça désigne globalement un mécanisme social qui est lieu parfois même sans sujet directement raciste. Le racisme systémique, ce n'est pas le résultat d'un acte isolé ou d'une série d'actes discriminatoires du style « moi, j'aime pas les sujets racisés », etc. Le racisme systémique, c'est un système, comme l'indique le terme, c'est-à-dire un système dans lequel les conditions de privilège ou de marginalisation accordées à un groupe racial sont présentes, ces conditions, au niveau de la politique, de l'économie, des relations quotidiennes. C'est-à-dire qu'il faut penser par-delà le racisme individuel, psychologique, idéologique. Il faut penser un racisme d'abord institutionnel. Cette idée que certains groupes de la population, du fait de leur racisation, se retrouvent constamment soumis à des dispositions qui, sans les cibler directement, affectent leur vie, affectent leur parcours de formation, leur accès à l'éducation, à l'emploi, au logement, leur relation avec les institutions publiques, avec les forces de l'ordre, avec la justice. Le racisme, en ce sens-là, est toujours structurel. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène pathologique ou anormal qui traverserait un individu dans une société donnée. C'est un processus qui se produit le plus souvent à l'insu des individus et qui s'inscrit dans une tradition historique et politique et qui a des effets sur les groupes racisés. Je donne un exemple de racisme institutionnel. La Covid-19 a provoqué 3 fois plus de morts de personnes noires que de personnes blanches dans certains états des États-Unis, mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans certains départements français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le personnel de soins est personnellement, psychologiquement raciste. Ça veut dire, d'une part, qu'il y a moins d'infrastructures de soins dans ce département. Ça veut dire qu'il y a moins d'habitude d'accéder aux infrastructures de soins aussi. C'est moins systématique. Et ça veut dire aussi que pendant qu'une majorité d'entre nous étions confinés à l'abri, et travaillions à l'abri de nos logements, etc., celles et ceux qui étaient au premier plan de métiers comme, que sais-je moi, caissier, caissière, livreur, livreuse, etc., c'est essentiellement des personnes racisées. Donc ça, c'est un exemple de racisme institutionnel, de racisme systémique. Un autre exemple de racisme institutionnel qui ne veut en aucun cas dire que nous sommes individuellement racistes, scannez la salle et regardez combien de personnes racisées il y a aujourd'hui. C'est un exemple de racisme institutionnel aussi. Bon, donc, alors, du coup, le pendant du racisme institutionnel ou du racisme systémique de manière plus globale, c'est ce qu'on appelle la blanchité, c'est-à-dire la constitution d'une identité blanche invisibilisée en tant que telle, parce que définie comme universelle, comme degré zéro de l'identité. Et corrélativement, la blanchité constitue des autres comme différents, c'est-à-dire comme marqués par un trait qui les particularise. J'aime beaucoup cette définition par Pierre Tevagnan de la blanchité qui consiste à dire « être blanc, être blanche, c'est ne pas avoir à se poser la question « qu'est-ce qu'être blanc ?» Ne pas avoir, contrairement aux Noirs, aux Arabes et aux autres non-blancs, à s'interroger sur soi, sur son identité et sur sa place dans la société, parce que cette place va en quelque sorte de soi. Eh bien, ceci a des conséquences analytiques, hein, qu'on pourrait résumer dans cette question globale. Le divan est-il blanc? Le divan est-il blanc? Donc, c'est-à-dire, comment, c'est toujours la question de la subalternisation, hein, c'est comment les modalités, comment il y a des modalités d'effacement du lieu d'énonciation du savoir analytique, de la parole de l'analysant, de l'analysante, de l'écoute de l'analyste, au nom de cette blanchité, précisément. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par « au nom de cette blanchité » ? Je pense que les modes de subjectivation blanc, et vous savez que ce n'est pas une question phénotypique, hein, c'est selon ce que je disais auparavant, les modes de subjectivation blanc s'accompagnent de la croyance que tout ce qui va ou ce qui vient à l'encontre de l'universalisme, c'est une déviance communautariste, identitariste, wokiste, islamo-gauchiste, comme on dit aujourd'hui, etc. Une déviance, hein, et que, parce qu'on sort de l'universalisme. Et donc, moi, je définis la blanchité non pas du tout comme une question phénotypique, mais comme une question discursive, une question énonciative. La blanchité, c'est cette opération discursive qui procède à l'élimination de toute autre discursivité qui n'obéit pas à son idéal d'universalisme. C'est-à-dire cette position dans laquelle le sujet se déclare garant d'un ordre moral universaliste et finit, donc en se déclarant garant de cet ordre universaliste, finit par occulter toutes les adversités, toutes les expériences auxquelles sont confrontés les sujets racisés, précisément parce qu'elles n'entrent pas dans cet ordre universaliste, justement. Et donc, ça repose évidemment, en termes analytiques, la question de la subalternisation. Qui parle? Qui peut écouter? Quand il y a une blanchité hégémonique dans un contexte d'écoute, dans un contexte de théorisation. Donc, ça remet en question toute la question de l'universalité de la théorie psychanalytique, bien évidemment, et toute la question de la neutralité de l'analyste. Vous allez écouter tout à l'heure Florent Gabarrón-Garcia, qui a bien déconstruit cette notion de neutralité, hein, comme neutralité politique mise en place par Jones pour garder la psychanalyse contre la menace de l'Allemagne nazie, hein, ou plutôt garder le régime nazi d'une menace qui serait psychanalytique, hein, donc dire que la psychanalyse est neutre, la dépolitiser. Je pense que c'est très important de la repolitiser, au contraire. Et donc, qu'est-ce que serait cette psychanalyse qui prend en compte ce qui est, ce qui n'est pas la race, qu'est-ce que serait que cette métapsychologie ? Eh bien, bon, comme je l'ai dit, je pense que la métapsychologie aborde assez peu cette question de la race et de la racisation. Alors, je vous ai dit, moi, je ne m'intéresse pas à une métapsychologie du racisme ou du sujet raciste. Pourquoi ? Parce que, assez souvent, ces métapsychologies du racisme ou du sujet raciste consistent à convoquer une notion qui me semble complètement métaphysique, qui est la notion d'inconscient collectif. Vous voyez, c'est une procédure qui consiste à attribuer des traits communs inconscients à tout un groupe humain. D'abord, ça n'a aucune espèce de rigueur scientifique. C'est pas du tout. Enfin, Freud ne parle jamais d'inconscient collectif, par exemple. C'est métaphysique. Et puis, c'est idéologique aussi. Je vous renvoie au débat entre Franz Fanon et Manoni, Octave Manoni, sur le complexe du colonisé, etc. Je ne m'intéresse pas à une métapsychologie du racisme ou du sujet racisé parce que certaines métapsychologies consistent à mettre en avant des processus psychiques spécifiques au groupe raciste. Qui seraient les mêmes, ces processus psychiques, par exemple l'identification projective, le clivage, le déni de l'autre, etc. Et de nouveau ici, on tombe sur un écueil qui est l'écueil de la généralisation. Un exemple de ces métapsychologies, c'est, bon, dans la veine lacanienne, c'est une lecture lacanienne qui consiste à dire le sujet raciste, c'est celui qui a ce fantasme, le fantasme que l'autre racisé lui a volé sa jouissance, le vol de jouissance. Donc être raciste, c'est fondé sur ce fantasme que l'autre a volé sa jouissance. Vous voyez, l'exemple typique que donnent certains psychanalystes états-uniens, par exemple, c'est au moment des lynchages aux États-Unis, des lynchages d'hommes noirs. Ces hommes noirs étaient, pour la plupart, très souvent accusés d'avoir violé une femme blanche. Et donc, c'est le vol de jouissance. Les hommes blancs qui, comme nous le savons tous et toutes, ne pratiquent absolument pas le moindre viol, la moindre violence de genre, etc., se sont vus voler leur jouissance, qu'ils se refusent, par des hommes noirs qui, eux, justement, l'effectuent. Vous voyez, donc, tout cela serait fondé sur un fantasme donc raciste. Mais considérer le fantasme raciste comme la base de la race et du racisme, ça risque d'oblitérer toute l'histoire coloniale et esclavagiste qui a fabriqué la race pour justifier les invasions, les massacres des populations, la spoliation de leurs terres, l'esclavage, la distribution du travail, au fondement du système capitaliste et de l'enrichissement de l'Europe moderne. Et donc cette intra-psychisation de la race et du racisme aboutit à une problématique dépolitisation de cette question, à une déshistoricisation des formes plurielles que prend le racisme, qui n'arrête pas de changer d'ailleurs. Une des formes actuelles, c'est ce qu'on appelle en anglais la color blindness, l'indifférence à la couleur. Je ne suis pas raciste, je ne vois pas la couleur. C'est une forme de racisme. On s'en rend pas compte, mais c'est une forme de racisme. Je peux dire je ne vois pas la couleur parce que j'ai le privilège de ne pas être affecté par ces questions de couleur. Et quand je dis j'ai le privilège de ne pas être affecté par cette question de couleur, parce que je suis perçu dans une forme de blanchité qui ne m'expose pas à la moindre vulnérabilisation. Je vous prie de croire que si je suis un jeune homme noir dans la rue qui se met à courir brusquement, soudainement, je n'aurai pas d'autre choix que de voir la couleur, parce que les trois flics qui sont au coin de la rue l'auront vu bien avant moi et me tomberont dessus à bras raccourcis. Et en plus, dire « je ne vois pas la couleur », c'est nier complètement la façon dont, pendant 5 siècles, la couleur a structuré les rapports sociaux. Et c'est se refuser toute espèce de politique de réparation des conséquences de cette structuration sociale historique. Donc voilà, le racisme est protéiforme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus une métapsychologie développée à partir du racisme, en tant que système, structure, institution, historiquement située et invisibilisée en tant que telle, et qui viserait à montrer donc, l'échec de la métapsychologie habituelle, freudienne, lacanienne, winnicottienne, kleinienne, à appréhender la race. Échec parce qu'elle s'applique à un sujet historiquement situé, totalement capturé par la certitude que la race n'est pas un problème pour elle ou pour lui. Et donc disqualifiant celles et ceux pour qui la race reste une préoccupation centrale. Métapsychologie donc qui connaît un échec, la métapsychologie habituelle, parce qu'elle reste située dans une expérience dominante, essentiellement blanche, occidentale, chrétienne, et corrélativement masculine, hétéro, centrée, cis-centrée, bourgeoise. Donc il s'agit de prendre en compte non seulement les rapports sociaux de genre et de sexualité propres à la Vienne du XIXe siècle, quand Freud invente la métapsychologie, mais aussi les rapports sociaux de race dans cette métapsychologie-là. Donc, ce qui amènerait à reconsidérer la question du sexuel infantile, développée par Freud, comme une question située. Alors, le sexuel infantile, bon, Freud, vous le savez, fait une distinction claire entre sexualité et sexuel infantile. Le sexuel infantile, ce n'est pas la façon de s'envoyer en l'air, c'est autrement plus large que ça. Le sexuel infantile, le sexuel élargi, ça désigne la recherche d'un plus de plaisir irréductible à la satisfaction d'une fonction vitale. C'est le principe de plaisir des plaisirs qui est propre à l'inconscient, selon Freud. Toutefois, bien que différent de la sexualité, ou pas réductible à la sexualité, dans un sens strict, le sexuel infantile s'inscrit dans ce que Foucault appelle le dispositif de sexualité. Hein ? Vous voyez, ça s'appelle sexuel infantile, ça s'appelle pas consensuel rétractile ou pluriannuel éjectile, ça s'appelle sexuel infantile. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans cette préoccupation européenne de la fin du XVIIIe siècle, qui a duré tout le XIXe siècle, le XXe siècle, pour une classification des genres, des sexualités, des sexuations. Médicale, économique, politique, philosophique, etc. Le dispositif de sexualité dont parle Foucault. Et mon hypothèse ici, c'est que le dispositif de sexualité repose sur une dissimulation dans les métropoles. La race a été refoulée, confinée aux colonies. Dans les colonies, comme dans les métropoles, c'est un dispositif de race invisibilisé en Europe, pendant longtemps, qui est à la base du dispositif de sexualité. C'est mon hypothèse. C'est-à-dire que, bon, Foucault, quand il parle de dispositif de sexualité, a laissé de côté tout ce qui s'est passé dans les colonies. En ignorant les colonies, Foucault ne prend pas en compte les pratiques qui ont fait des corps racisés le lieu de construction de la sexualité européenne au XIXe siècle, mais lieu de construction de cette sexualité bien avant le XIXe siècle, dans les colonies. Il y a une pensée raciale appliquée au corps sexué et sexualisé dans les colonies, qui a contribué à la construction du corps bourgeois européen, de l'identité bourgeoise européenne. Dans les colonies, les pratiques de ségrégation offraient un modèle de corps sain, vigoureux, bourgeois, vertueux. Elles inscrivaient la blanchité dans une maîtrise de soi, dans la vertu sexuelle, dans la prévention du métissage. Si bien qu'une grammaire raciale implicite sous-tend tous les régimes sexuels de la culture bourgeoise et sous-tend justement le dispositif de sexualité dont parle Foucault. Donc être européen, c'est constitué dans les colonies par la valeur différenciée des corps, valeur codifiée par la classe, le genre, la sexualité, mais surtout la race, ici. Et donc je conclue ici en disant qu'à la base du dispositif de sexualité se trouve un dispositif de race qui le traverse, qui lui est consubstantiel. Et du coup, l'hypothèse du sexuel infantile, me semble-t-il, reste limitée. L'hypothèse du sexuel infantile émise par Freud ne concerne qu'une petite fraction de l'humanité, celle qui, privilégiée, entend démentir les rapports sociaux de race sur lesquels sa culture, ses valeurs se sont construites dans la modernité et qui a placé au centre de ses préoccupations des questions sexuelles. Elle a eu le luxe de le faire, précisément parce qu'elle n'a pas de préoccupations raciales. Le reste de l'humanité, en revanche, dans les colonies, a été confronté aux rapports sociaux de race directement, sous domination coloniale, mais aussi aujourd'hui, en régime de racisme systémique. Donc, par-delà le sexuel infantile, je propose la notion de racial infantile. Le sexuel infantile, donc, recherche d'un plus de plaisir non réductible à la satisfaction d'une fonction vitale. Le racial infantile, je le définis comme, dans un système de hiérarchisation des populations, comme la recherche de survie, dans un rapport collectif et subjectif de domination, qui ne peut se justifier par aucune naturalisation des corps et des cultures. Donc il ne s'agit pas de plaisir des plaisirs, il s'agit de survie. J'en donne un exemple. J'ai vu en arrivant qu'on était devant la médiathèque James Baldwin, qui est un de mes auteurs, qui est mon auteur états-unien préféré, James Baldwin, qui décrit dans The Fire Next Time, la prochaine fois le feu, je crois, dans l'éducation de l'enfant noir, un exemple de ce que Laplanche appelait le message énigmatique, qui charrie ce racial infantile, qui transmet inconsciemment ce racial infantile. Je donne cet exemple. Chaque effort fait par les adultes pour préparer le jeune enfant à un destin dont ils ne peuvent le protéger. Donc le jeune enfant noir, hein, ici. le conduit secrètement, terrifié, à commencer à attendre, sans le savoir, son mystérieux et inexorable châtiment. L'enfant doit être sage, non seulement pour plaire à ses parents et éviter d'être puni par eux, derrière leur autorité s'en cache une autre, anonyme et impersonnelle, infiniment plus difficile à satisfaire et d'une cruauté sans limite. Elle s'infiltre dans la conscience de l'enfant à travers le ton de la voix du parent, lorsqu'il reçoit un ordre, une punition ou de l'amour. Vous voyez, ça c'est un message énigmatique, c'est-à-dire une infiltration inconsciente par l'inconscient de l'adulte du message conscient adressé à l'enfant, hein, qui charrie, qui véhicule du racial infantile précisément. Et donc pour conclure, un sujet ne précède pas le système racialiste qui le produit. Un sujet se subjective en intériorisant des normes qui le définissent comme blanc ou comme racisé. Et l'acte analytique a précisément pour visée, me semble-t-il, de montrer la contingence de ces normes, de sortir, en termes de race, de ce qu'on peut appeler une mélancolisation de race. Alors j'essaie de penser, moi, ce que j'appelle une mélancolisation de race, une mélancolie de race, par analogie avec la mélancolie de genre de Judith Butler. La mélancolie de genre, vous savez, Judith Butler définissait la mélancolie de genre comme cette restriction chez l'enfant d'une multiplicité érogène, de possibilités érogènes, qui va fabriquer un corps genré, un corps de petite fille ou de petit garçon, est fabriqué par la forclusion, vous voyez, la transformation en impossibilité performative de possibilités érogènes. Hein. On doit renoncer à des possibilités érogènes, on doit les perdre pour fabriquer un corps sexué de petit garçon, de petite fille. On doit les perdre, et cette perte est perdue elle-même. C'est une forclusion. Eh bien, moi, de la même manière, je parle d'une mélancolie de race, c'est-à-dire l'affirmation de la blanchité, ce serait cette opération par laquelle la multiplicité des assignations raciales devient une impossibilité performative, fabrique une identité blanche hégémonique. La blanchité, donc, ce serait un processus de privation qui concerne pas seulement les personnes perçues comme blanches, mais aussi les personnes perçues comme racisées. C'est la forclusion d'une multiplicité psychique de racialisation, littéralement incorporé dans la soumission du corps racisé aux normes, aux modèles blancs. C'est, si vous voulez, cette injonction paradoxale, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas blanche, mais vous n'avez pas d'autre choix que de tenter de l'être. Se blanchir ou disparaître, disait Frantz Fanon. Un véritable effort pour rendre l'autre fou ou folle. Donc pensez les effets de domination, ici, tentez d'y remédier, en psychanalyse, implique d'accompagner dans le passage de la mélancolie de genre, de race, au deuil. C'est-à-dire tenter de favoriser une fluidité psychique dans les identifications de genre, de sexualité, et une prise de conscience de la contingence des assignations, des identifications de race. Et donc ça implique que la psychanalyse fasse un effort pour se décoloniser, pour sortir de ce paradoxe où les auteurs et les autrices déstabilisatrices de la culture du Nord sont devenus au Sud un statu quo, par lequel se génère un effet colonisateur. En ce sens, la psychanalyse européenne a tout à apprendre des développements actuels propres à l'America Latina, c'est-à-dire à l'Amérique latine, dans sa colonialité, sa décolonialité, ses hybridations et ses recentrages hors d'Europe, pour ne pas se cantonner à son institut d'invention eurocentrique. Il s'agit donc pour la psychanalyse de dériver, errer, pérégriner, circuler, voyager, migrer, bref, littéralement, de perdre le Nord. Merci.
Merci beaucoup, Tamir Ayouch, pour cet exposé lumineux. On a quelques minutes pour poser des questions. Claire, tu veux réagir ?
Oui, je veux réagir de façon très brève. Merci beaucoup pour cette... Je vais pas tout commenter, mais je trouve très intéressant d'être passée par le Brésil et on serait très demandeur de rencontrer... Des psychanalystes brésiliens qui ont travaillé là-dessus.
Il y en a une au moins dans la salle, au moins une, là-bas, deux. Et ben voilà.
Ah, super, parce
qu'il y en avait une autre à l'entrée aussi.
J'ai assisté à un colloque brésilien à distance. Et j'étais vraiment émerveillée par leur créativité. C'était vraiment très intéressant, par rapport à la langue notamment. Mais bon, tout ce que tu reprends des sciences humaines aussi, hein, Guillaume, de la philosophie, bien sûr. C'est vraiment très intéressant de rassembler tous ces savoirs du passé pour penser notre pratique psychanalytique ou psychothérapeutique. La difficulté de nommer aussi ça, reprendre ce que dit Marie-Rose, comment trouver les mots. Inconscient collectif, effectivement, ça fait trop appel à une notion aussi freudienne, l'inconscient. Donc, moi, j'appelle ça l'insu historique. Mais je sais que Françoise Davoine y a réfléchi également, Roberto Beneducci aussi. On a chacun nos mots pour essayer de trouver le mot juste qui contourne cette question d'inconscient, voilà, qui serait comme un chapeau. Collectif, voilà. Je trouve très intéressant aussi peut-être de faire peut-être un distinguo, je ne sais pas si j'anticipe, entre l'universalisme et l'universel, parce qu'effectivement, il y a le fameux diversel de nos auteurs de Glissant, voilà, je cherchais de Glissant. Il y a aussi Françoise Vergès que tu n'as pas nommée, mais qui dit bien que la question du racisme en Europe, c'est a exclu la question des colonies extérieures, c'est-à-dire que oui. Effectivement, voilà. Donc, et puis Ta-Nehisi Coates, je pense que tu connais Ta-Nehisi Coates, qui reprend ce que dit James Baldwin à niveau une colère noire notamment. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Où il arrive en France, justement sur les pas de James Baldwin et des auteurs américains noirs, et qui réagit parce que il y a d'un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui pose la main sur son fils. Et à partir de là, il surréagit parce qu'effectivement, encore maintenant, les sujets noirs, et il fait toute une histoire là-dessus, sont éduqués pour faire face à la main qui va se poser sur eux. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement intéressant, quoi. On en avait fait un édito de Ta-Nehisi Coates, La colère noire. Voilà. Bon, voilà, c'est en vrac un peu, mais peut-être qu'il faudrait donner la parole peut-être à la salle pour des questions.
Rajouter aussi comment on voit que situer la cause, l'origine des comportements et des agir de la personne, de sa pensée, dans un conflit intrapsychique. Dépolitise. Donc la question.
Ce que tu dis avec l'inceste.
Que reste-t-il du conflit intrapsychique dans tout ça?
Oh, quand même.
Mais c'est pas incompatible.
Non, c'est pas incompatible.
On peut avoir la vérole et un bureau de tabac. Hein. on peut. C'est pas incompatible. Je veux dire, ce n'est pas incompatible de penser qu'il y a du conflit intrapsychique qui s'inscrit dans des rapports sociaux de pouvoir. Que les rapports sociaux de pouvoir provoquent du conflit intrapsychique.
C'est ça. Il s'agira de voir quel conflit intrapsychique à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Donc, sexuel infantile situé, j'aime beaucoup. Ça dit,
Les micros, y a des micros qui peuvent circuler. On a quelques minutes pour une ou deux questions, ou des échanges, un commentaire.
Lumineuse et qui donne beaucoup à penser, beaucoup à travailler. J'aurais bien aimé t'entendre un peu plus sur le racial infantile, voir comment tu pouvais déplier cette chose-là qui met les psychanalystes au travail beaucoup, je l'imagine. Enfin, en tout cas, moi, je me sens appelée à cet endroit-là. Comment penser en même temps le racial et l'infantile, à quel point c'est infantile? Je pense que tu as dit beaucoup sur le racial. Et j'aurais bien aimé pouvoir en entendre un tout petit peu plus sur l'infantile et la polymorphie que cet infantile implique quand il est employé en association avec le sexuel infantile, comme tu l'as fait. Merci.
Une heure, on te donne.
Oui, c'est ça. Bon. Bah, tu as dit que tu étais là jusqu'à midi, donc bon, je profite.
Non, il faut que je sois à Mizy, à Paris Cité, c'est-à-dire à l'autre bout de Paris. Mais merci beaucoup pour ta question, Dorothée. Écoute, racial infantile. Bon, infantile, ça ne veut pas dire uniquement enfantin, propre à l'enfance. Bien que, on va dire que ça commence à partir de l'enfance. Quand Freud parle de sexuel infantile, hein, c'est-à-dire que c'est pas uniquement, enfin, c'est ce qui se produit à partir de l'enfance, mais qui continue. Mais il faut entendre infantile au sens de ce qui caractérise l'inconscient. Et moi, je l'entends de manière très laplanchienne. Jean Laplanche, cette idée que Laplanche parle d'un rapport anthropologique fondamental, qui est cette idée que il y a une inégalité fondamentale de base, hein, à laquelle tu fais référence, Daniel, qui est cette inégalité entre l'adulte et l'enfant, qui est cette idée qu'un enfant est livré aux bons soins d'un adulte, et Laplanche en tire cette idée que l'inconscient de l'enfant, l'infantile, ici, ne vient que de ce rapport avec l'adulte, que l'inconscient est, pour ainsi dire, introduit dans l'enfant, dans cette interaction avec l'adulte qui passe par un message clair, conscient, mais qui est infiltré de par l'inconscient de l'adulte, un message dit énigmatique, qui produit justement de l'infantile. Alors, Laplanche dit c'est le sexuel infantile, moi je dis c'est le racial infantile, parce que ce message ne se limite pas uniquement à ce qui a constitué l'intérêt principal de l'Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui est le sexe, la sexualité, le genre, les générations, etc., et tout ce qui s'ensuit de production, de démultiplication des discours, mais qui concerne aussi les rapports sociaux de race. Et du coup, l'infantile, peut-être que ma façon de lire Laplanche, c'est d'y introduire du rapport de pouvoir. Ce que Laplanche appelle le rapport fondamental, anthropologique fondamental, ce rapport entre l'adulte et l'enfant est un rapport de pouvoir. Et ce qui m'intéresse pour penser l'infantile, c'est-à-dire pour penser l'inconscient, c'est de toujours essayer de le resituer, de situer le sujet et le sujet de l'inconscient dans le cadre de rapports de pouvoir, de rapports sociaux de pouvoir. Le premier étant le rapport adulte-enfant, mais aussi des rapports de pouvoir de genre, de sexualité, de classe, de race, de validité, etc. Voilà ce que je fais, moi, personnellement, de l'infantile. C'est une relecture.
Merci de montrer comment on peut utiliser des modèles pour non politiser du tout, dans une vision politique et de rapport de pouvoir, et au cœur desquels la domination adulte sur les enfants. Un grand impensé. Merci aussi de nous avoir rappelé à quel point le colonialisme, le racisme ont construit les sociétés et les cultures européennes, y compris la psychanalyse. Ça a déjà été dit, mais le redire à propos de la psychanalyse, merci beaucoup, Tammy.
Merci.